Et avec Alexandra Ben Saïd, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 un économiste, professeur au Collège de France. Il fut l'un des rédacteurs du programme économique d'Emmanuel Macron. Vous pouvez intervenir, dialoguer avec lui, l'interpeller éventuellement au 01 45 24 7000 via les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Philippe Aguillon, bonjour.
Bonjour.
Le président de la République va faire ce soir et mercredi un certain nombre d'annonces pour clore la première partie du grand débat national. Lors de la synthèse des contributions des Français, Édouard Philippe a pointé le ras-le-bol fiscal, la tolérance fiscale zéro qui émanerait des contributions des ministres venus de la droite historiquement. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu ont embrayé en faisant de la baisse des impôts et de la dépense publique la feuille de route à désormais mettre en œuvre. Est-ce ce qu'il faut faire pour sortir de la crise des gilets jaunes, c'est ça? Est-ce la bonne solution selon vous, Philippe Aguillon?
Alors, d'abord, je voudrais dire que je pense que c'est important de procéder à une réforme de l'État. C'est vrai qu'on peut mieux dépenser l'argent public. C'est pas tant de dépenser nécessairement beaucoup moins, mais de mieux cibler les dépenses. Le millefeuille territorial, le millefeuille social, l'organisation de l'État. Donc il y a des réformes importantes à faire. Donc ça, il faut les faire, absolument. Mais je crois que, comme le dit François Bayrou, l'inquiétude du pays ne serait résume pas à une baisse d'impôts. Laurence Boone, chief économiste de l'OCDE, écrit dans Le Monde, attention, on ne peut avoir la gratuité de la santé, de l'éducation, les retraites publiques, une lutte efficace contre la pauvreté et pas d'impôts. Il faut prendre le débat dans l'autre sens, dit-elle. Quel niveau de service public veut-on? Et surtout, le problème n'est pas tant de baisser. Si on peut baisser, tant mieux. Et il y a des choses où on peut baisser. Mais c'est surtout de cibler la dépense publique.
Mais est-ce qu'il faut baisser, Philippe Aguillon?
Je pense que l'important, c'est de mieux cibler. Je crois que c'était très important, c'est que dans le programme d'Emmanuel Macron, il y avait l'idée libérée. Donc, il y a eu des grandes réformes. Marché du travail, flat tax, qui ont donné des résultats très importants. Faut quand même le dire. Recul du taux de chômage de 10% fin 2016 à 8,8% fin 2018. Taux de chômage des jeunes baisse de 23% fin 2016 à 19% en 2018. Les investissements ont redémarré, la croissance 2,3 en 2017, 1,6 en 2018 qui n'est pas si mal, l'attractivité France, premier pays d'accueil des investissements industriels, donc il y a eu des réformes qui ont quand même donné des résultats,
mais
il y a un le en même temps, et le en même temps c'est que il faut le trépied libérer, oui, mais en même temps protéger et émanciper et investir dans la réforme, parce que l'idée de Macron c'était la réforme par l'investissement, donc il faut investir et on peut investir parce que les taux d'intérêt sont très bas par rapport au taux de croissance.
Rapprochez-vous du micro,
Philippe Aguillon. Oui. Pourquoi est-ce que le « en même temps » jusqu'à présent ne l'a pas vu? La rigueur budgétaire portée en totem n'est pas un projet politique. Ça, c'est ce que disent Nicolas Hulot et Laurent Berger et une quinzaine de responsables associatifs dans une tribune publiée hier dans le JDD. Est-ce que c'est aussi votre lecture de ce qui s'est passé pendant la première partie du quinquennat et peut-être de ce qui se profile? Est-ce qu'il y a eu une obsession de la baisse des déficits?
Je crois que la première partie du quinquennat, c'était l'idée, il faut réformer très vite. Il y a un certain nombre de réformes, il faut les faire très vite. Parce que, il y a une urgence à réformer. C'est vrai que la France, pendant 30 ans, n'a pas réformé. Il y avait des réformes qui pouvaient pas attendre. Donc, je crois que c'était important de mettre en œuvre ces réformes. C'est vrai que sur le timing, il y a eu des erreurs de parcours. Je n'aurais pas désindexé les retraites par rapport à l'inflation. Je n'aurais pas augmenté la CSG des retraités comme ça a été fait. Bon, puis il y a eu toute l'histoire de la taxe carbone. Donc ça, à mon avis, ça a été des erreurs.
Mais
ça.
Pour résoudre le problème du déficit, c'est ça la question? Est-ce que c'est des erreurs pour résoudre des problèmes comptables?
Alors, je pense pour le problème du déficit, je pense qu'il faut d'abord, il y a l'idée de dire qu'il faut réformer l'État. Donc il y a toute une réforme de l'État à entreprendre. Mais c'est un processus de long terme. Il faut le faire sur le long terme. Par exemple, les retraites. Eh bien, il y a une manière de faire, c'est le systémique. Il y avait une très belle idée dans le programme de Macron, c'était le passage au système à points, qui est un système qui s'équilibre. C'est le système suédois. Mais on n'y va pas du jour au lendemain. C'est un processus d'aller vers le système à points. Il y a une période de transition d'une dizaine d'années. Mais le système à points vous permet en fait d'allonger la durée de travail, mais de manière juste, en tenant compte du fait qu'il y a des gens qui commencent plus tôt à travailler et en tenant compte de la pénibilité. C'est beaucoup plus juste que de dire « hop, je mets l'âge minimum à 65 ans ».
Mais vous en parlez au passé, Philippe Aguillon?
Non, pas du tout.
Parce il y avait quelque chose de
non,
très
non,
juste, avez-vous dit?
Non, pas du tout. Je pense que là, il faut... c'est vrai que certaines personnes s'inquiètent, de ceux qui ont, de certaines voix qui disent, voilà, mettons l'âge minimum, augmentons l'âge minimum. Ils s'inquiètent des rumeurs que Delevoye voulait démissionner parce qu'il n'était pas content de choses qui allaient à l'encontre de ce projet de passage au système à points. Je crois qu'il faut rester dans l'esprit du programme. Et l'esprit du programme, c'était de dire, on réforme, mais on réforme en se donnant le temps et en investissant et en se donnant le temps. Mais la réforme permettra de rationaliser l'utilisation des fonds publics. Mais on le fait dans le temps. Et on peut le faire parce qu'on a des taux d'intérêt très bas par rapport au taux de croissance. Et Olivier Blanchard l'explique très bien. Ça vous donne des marges pour réformer sur le long terme.
Olivier Blanchard, l'ancien chef économiste du FMI.
Voilà.
On revient à nos moutons, Philippe Aguillon, si vous le voulez bien. Le président de la République donc annonce un certain nombre de choses ce soir. Vous ne savez pas de quoi il s'agit, donc je ne vais pas vous demander d'essayer de le deviner. Mais selon vous, économiste, que faudrait-il faire? Dites-le nous.
Ah, écoutez, je crois que l'important, il faut pouvoir se donner les moyens de continuer à réformer. Il y a eu des grandes réformes qui ont été faites. La réforme du marché du travail, la réforme fiscale, flat tax, mais il y avait le en même temps. Quand on a fait le passage à la flat tax, il fallait en même temps dire je mets à plat les niches fiscales. D'ailleurs, même Darmanin le dit.
Et donc, je pense que c'est ce qu'il faut faire maintenant.
Je pense qu'il y a un besoin, pas juste de baisser d'impôts, mais de justice fiscale. Donc, ce en même temps. Et pour, par exemple, c'était vrai que dans l'esprit de plusieurs personnes qui ont travaillé au programme, je ne veux pas donner de nom, c'était évident pour nous qu'en même temps qu'on allait passer à la flat tax, et moi j'ai beaucoup poussé pour la flat tax personnellement, on allait aussi mettre à plat les niches fiscales. Ça ne veut pas dire qu'on les enlève. Ça veut dire que certaines on les garde, certaines on les garde pas. Je vous donne un exemple des niches fiscales. Une note récente du CAE, du Conseil d'analyse économique, qui s'appelle baisse de charges, stop ou encore. Montre qu'autant les baisses de charges sur les bas salaires ont aidé à améliorer notre compétitivité, autant les baisses de cotisations sociales sur les salaires au-delà de 1,6 SMIG n'ont pas eu d'effet avéré sur les exportations et l'emploi. De fait, la courbe des salaires allemands passe au-dessus de la courbe française dès le troisième décile de salaire.
Par les Français.
On peut tout à fait les exonérations entre 1,6 et 3,5 de SMIG, eh bien, si on les enlève, eh bien, on récupère 4 milliards d'euros.
Parlez-nous, s'il vous plaît, de manière claire et compréhensible par tout le monde. Philippe Aguillon, vous êtes parti des niches fiscales. Donc, que faire des niches fiscales? Traduisez-nous le document que vous venez de nous lire.
Ce sont les aides aux entreprises. C'est que dans les niches fiscales, ce qu'il faut nettoyer, on peut gagner de l'argent sur les aides aux entreprises.
Exactement. Il y a un certain nombre de, il y a des salaires qui sont, disons, des charges qui sont prises par l'État. On dit, voilà, enfin, on vous donne des baisses de charges, mais sur certains salaires, peut-être pas sur d'autres. Et donc, on peut, par exemple, sur le CICE, on peut récupérer
4 milliards sur le CICE.
On peut récupérer 4 milliards en disant, ben, au-delà de 1,6 SMIG, on ne prend plus les charges on ne baisse plus les charges. Voilà.
Donc sur les niches fiscales, on peut déjà faire des économies, en fait, c'est ce que vous êtes en train de dire à Bercy, on pourrait chercher des entreprises.
Je prends ça comme exemple, en tout cas c'est à évaluer. Il y en a d'autres, il faut les mettre, il y a 100 milliards de niches fiscales, d'accord? Sur les 100 milliards, vous n'allez pas me dire qu'on ne peut pas trouver 6 ou 7 milliards. Moi j'ai déjà une idée pour en trouver 4. Donc l'idée c'est de dire, il faut évaluer. Il faut les mettre à plat pour les évaluer. Peut-être que j'ai tort, peut-être que c'est une autre niche. Mais il faut les mettre à plat, les évaluer. Et puis, à mon avis, on peut récupérer un certain nombre de milliards sur ces niches. Et il n'y a pas que moi qui le dis. Darmanin lui-même en avait parlé à un moment donné et ça avait été retoqué. On disait que ça avait été retoqué par l'Élysée. Et puis Rexecode, qui est un organisme qui n'est pas du tout de gauche, quand eux aussi avaient poussé pour la flat tax. Et eux, si vous lisez les ouvrages de Rexecode, eux-mêmes poussaient pour la mise à plat des niches fiscales. Donc c'est une idée très naturelle.
Et Philippe Aguillon, le en même temps, la justice fiscale pour vous, par quoi ça doit passer? On sait que la suppression de l'ISF, c'est un peu le sparadrap du capitaine Haddock pour ce gouvernement. Est-ce qu'il faut revenir et, à votre avis, remettre une contribution plus importante des hauts revenus sur l'impôt?
Il y a différentes choses. Moi, je pense que les niches, c'est déjà... c'est déjà une mesure possible. On peut éventuellement mettre une tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu. C'est à discuter. Mais il y a, en tout cas... Moi, ma préférée, c'était la mise à plat des niches. Ça me semblait très naturel, minimum, quoi. Or, quand j'ai posé la question au président pendant le débat avec les intellectuels, il a pas rebondi là-dessus.
C'est-à-dire.
Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent, mais oui, bien sûr que c'est une des pistes, voyez. Donc voilà, et j'espère que, voilà, c'est un, en même temps minimum. Qu'est-ce qu'il faudra faire exactement, je vais pas vous dire, mais en tout cas, ne rien faire du tout. Là, ça fait très déséquilibré.
Mais pourquoi, Philippe Aguillon, le « en même temps » que vous avez donc aidé à contribuer à théoriser, n'a-t-il pas été mis en œuvre? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des erreurs de calendrier, de stratégie? On a commencé à faire si et ça, et on n'a pas fait deux choses en même temps? Ou est-ce que ça n'existe pas? tout simplement, et que on se retrouve face à une politique économique dont vous avez dit vous-même qu'elle pouvait être identitairement libérale.
Si vous voulez, la bonne interprétation, c'est de dire, voilà, il y a un certain nombre de réformes difficiles, faisons-les au début. Il y a urgence à faire ces réformes-là, les réformes du libéré. Donc, il fallait les faire très vite, parce que si on les fait pas en début de mandat, on les fait jamais. Et en disant, ben voilà, la baisse de taxes d'habitation ou les autres mesures viendront plus tard. Et je crois que maintenant, ils réalisent que la synchronisation n'était pas parfaite. Donc ça, c'est une explication. Une autre explication moins optimiste, c'est de se dire peut-être qu'il y a une stratégie électoraliste, c'est-à-dire de dire, je vais chercher des électeurs à droite parce que j'ai ma concurrence politiquement sérieuse est à droite. À gauche, c'est un peu la débandade, je n'ai pas de concurrent sérieux. Et donc, j'ai une stratégie électorale d'aller pêcher des voix à droite. Ça, c'est, j'espère que c'est pas ça l'explication. J'espère que l'explication, c'est simplement, eh bien, on a été très vite sur certaines mesures et peut-être qu'on n'a pas bien adapté le calendrier.
Donc vous-même, vous savez, vous n'avez pas fait votre religion sur le sujet.
J'espère que c'est le calendrier et que ce n'est pas l'autre raison. Voilà, j'espère, j'ai confiance que c'est là que le président sera fidèle à son programme et à l'esprit de son programme. Mais c'est vrai qu'au sein du groupe En Marche, je vois beaucoup de plusieurs députés qui viennent vers moi, qui me disent, ben moi je m'interroge, je suis un peu perdu, je ne sais pas où il veut aller.
C'était peut-être une mystification le en même temps, c'est ça ce que vous nous dites, sous réserve d'inventaire. Hein.
Moi, je suis persuadé qu'il va le faire. J'ai confiance que ce soit. Mais c'est vrai que c'est intéressant.
Mais c'est un acte de foi.
C'est intéressant ce distribution. Des rôles avec le Premier ministre. C'est un petit peu gentil flic, méchant flic, quoi. Donc on laisse le Premier ministre la semaine dernière dire uniquement baisse d'impôts et beaucoup de gens ont peur que derrière la baisse d'impôts se cachent des baisses de services, vous voyez, de prestations publiques et se cache cette réforme des retraites très brutale. Voilà, ça a créé des inquiétudes, cette déclaration du roi. Alors est-ce que c'est pour ensuite que le président vienne aujourd'hui dire mais non, je vais rétablir. Donc j'espère que c'est ça l'explication.
Et vous
mais
qui connaissez Emmanuel Macron,
cette intervention du Premier ministre la semaine dernière a créé, disons, du trouble parmi beaucoup de gens qui sont impliqués dans l'entreprise En Marche.
Et vous qui connaissez Emmanuel Macron, vous ne savez pas dire si le good cop va prendre le dessus.
Écoutez, j'ai confiance qu'il va être fidèle, qu'il va comprendre l'importance de maintenir l'unité. C'est du ni gauche ni droite, c'est du libéralisme social, c'est pas du libéralisme non social. Voilà, j'ai confiance qu'il va rester fidèle à ses valeurs fondamentales. C'est ce que j'espère.
Et alors, la gauche, la Macronie de gauche, la jambe sociale, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant maintenant que vous n'avez pas ce que va dire Emmanuel Macron ce soir, mais que mettriez-vous en avant? Vers qui, à qui tendriez-vous la main?
Mais je crois qu'il faut prendre en compte, il y a une demande il y a des gens qui ont des très petits salaires et des pouvoirs d'achat insuffisants. Par exemple, on a augmenté de 100 euros cette année le revenu au niveau du SMIC. Ça, il faut pérenniser évidemment ces augmentations. Il y a une demande donc de pouvoir d'achat. Et puis, il y a une demande de justice fiscale. Donc, il faut des mesures symboliques de justice fiscale. Il y a une demande de services de proximité et de services publics de meilleure qualité. Voilà différentes demandes auxquelles il faut répondre.
On va donner la parole aux auditeurs de France Inter. Il y en a beaucoup au standard, il y en a beaucoup également sur l'application. Philippe Aguillon, cette question donc sur l'appli France Inter, elle vient de Pascal. Bonjour, nous dit-il. Pourquoi réduire les impôts à tout prix et dégrader notre service public dont on a besoin? Santé, éducation, défense. L'argent existe dans les entreprises, mais il est mal redistribué. 66% des bénéfices retournent aux actionnaires. On est très loin du ruisseau. Sur la première partie de la question, pourquoi réduire les impôts à tout prix? Que répondez-vous à notre auditeur? Est-ce qu'il y a une alternative à la baisse d'impôts, pour le dire simplement?
Ma réponse est celle de Laurence Boone, c'est-à-dire il faut prendre le débat dans l'autre sens. Quel niveau de service public et quelle qualité de service public on veut et quelle est la manière la plus efficace de l'obtenir? Alors il y a des endroits où on dépense d'une manière pas totalement efficace. C'est vrai qu'en France, il n'y a pas une culture de l'évaluation des dépenses publiques et de l'utilisation de l'argent public. Il faut la mettre en place, cette culture-là.
Mais il va falloir que la nation fasse son choix. C'est
les
citoyens.
Qu'est-ce qu'on veut? Et à ce moment-là, à partir de ce qu'on veut, comment on l'obtient de la manière la plus efficace?
On ne pourra pas garder tous les services publics tels qu'on les connaît aujourd'hui.
C'est pas qu'on peut pas garder. Il y a des choses qui sont utiles, il y a des choses qui sont moins efficaces. Par exemple, on dépense autant que les Finlandais pour l'éducation primaire et secondaire avec des résultats beaucoup moins bons. Donc il y a peut-être des choses à améliorer. On dépense, il y a un certain nombre de services dans lesquels on dépense, on pourrait avoir une meilleure qualité pour le service, pour l'argent qui est dépensé. Donc si vous voulez, mais il faut partir de l'idée, qu'est-ce que je veux comme service public? Et après, je vois comment je rationalise.
Ça, c'est un sujet de grand débat.
Ça, c'est un sujet fondamental. Aujourd'hui, plutôt que donner des mesures, il devrait faire telle mesure ou telle mesure, c'est plutôt des approches. Il devrait raisonner dans ces termes-là. Ensuite, il devrait se dire qu'il y a des sources comme les niches où on peut prendre également. Et il devrait se dire qu'avec un taux d'intérêt très bas, il a le temps. Il n'a pas besoin de réduire drastiquement les dépenses publiques demain. Il peut prendre le temps de faire des réformes qui, dans le long terme, vont rationaliser l'utilisation d'argent public.
Ce que vous êtes en train de dire et qui est très important, c'est qu'en fait, ce gouvernement a des marges de manœuvre. On dit toujours...
Il a des marges de manœuvre. Ils disent qu'ils n'en ont pas, ils ont des marges de manœuvre. Absolument. On peut faire de l'emprunt, il y a les niches fiscales, on peut vraiment, on a des marges. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas s'astreindre à une discipline. Vous voyez qu'il ne faut pas dire, voilà, je m'assure que l'argent public est bien dépensé.
Mais donc, lorsque, en effet, Édouard Philippe, le Premier ministre, commence par dire, il faut faire des baisses de dépenses, il faut baisser les impôts, vous vous dites, tout au contraire. Vous dites, là, il prend vraiment les choses à l'envers.
Il prend les choses à l'envers. Il faut partir de qu'est-ce qu'on veut, quel genre de qualité de service, parce que c'est d'investissement, l'éducation et la santé. J'investis dans la croissance de demain. La croissance verte. Comment je fais la transition énergétique? On sait que la taxe carbone seule, c'est pas la solution. Donc il y a des nombres d'investissements à faire. Comment je vais les financer? Et après, j'essaie de voir comment je le fais efficacement. C'est comme ça qu'il faut raisonner.
En tout cas, merci Pascal pour cette question, parce que la réponse de Philippe Aguillon est très importante. Philippe, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Moi, je voudrais poser une question sur la privatisation de l'aéroport de Paris. On a eu l'exemple de l'aéroport de Toulouse qui a été vendu et qui était rentable. Et j'aurais aimé avoir un comparatif sur cet aéroport que l'on veut vendre.
Merci Philippe pour cette question. Philippe Aguillon.
Oui, alors je ne suis pas spécialiste de cette question. Moi, ce que je constate, c'est que c'est vrai qu'il y a quelques années, l'aéroport de Paris, ça marchait pas très bien. On était tous très frustrés d'avoir à prendre des avions comme il fallait ou d'avoir à utiliser des passerelles. De fait, il y a eu des réformes qui ont été faites dernièrement. Les résultats, c'est-à-dire les bénéfices de l'aéroport de Paris ont doublé depuis 5 ans et la valeur boursière a été multipliée par 4 en 10 ans. Donc les résultats ne sont pas mauvais. C'est pas une entreprise mal gérée. C'est une entreprise bien gérée. Donc la question est de savoir pourquoi on veut la privatiser. Alors moi, j'ai l'impression qu'on veut le faire parce qu'on veut réduire la dette publique. Mais à nouveau, Blanchard vient et dit, il n'y a pas, quand vous avez un taux d'intérêt si bas, il n'y a pas d'urgence absolue. Et le taux d'intérêt est très bas pour des raisons profondes, c'est qu'il y a un excès d'épargne par rapport à l'investissement mondialement. Et cet excès d'épargne ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc les taux d'intérêt vont rester bas pendant encore longtemps. Donc est-ce qu'il y avait vraiment urgence à vendre ADP qui marche bien quand vous avez des intérêts bas? Je dis non.
Ça sert
à rien.
Il n'y
a pas d'urgence. Je ne vois pas l'urgence.
Mais là, c'est pour abonder un fonds stratégique pour les innovations de demain.
Oui, mais les innovations, on dit la privatisation rapporte 10 milliards et on parle de 200 millions pour financer les innovations. Vous voyez, donc ça, c'est un argument de mauvaise foi.
C'est quoi? C'est une entourloupe, cette histoire d'ADP?
Je crois que c'est une manière de dire, voilà, je veux que sur la dette publique, on soit en dessous de 100% du PIB.
C'est de la cavalerie.
Ah oui, voilà.
Donc vous voyez qu'on revient à cette obsession de la dette et du déficit, Philippe Aguillon.
Oui, mais à nouveau, je dis Blanchard, c'est-à-dire ne
n'ayons pas cette obsession-là.
N'ayons pas cette obsession-là, absolument.
En ligne, Ahmed, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Ahmed.
Oui, voilà, monsieur Aguillon, il y a une étude de Bercy qui montre que ce que coûtait, en termes d'exil fiscal, les gens qui partaient à cause de l'ISF, c'était dans les 272 millions d'euros à peu près. Avec une actualisation. Et donc, quelque part, on veut économiser 272 millions d'euros en perdant quasiment 4 milliards. Est-ce que c'est très rationnel? Et puis, je pourrais rajouter l'histoire du CICE, cette année 40 milliards, avec une efficacité douteuse.
Merci Ahmed pour ces deux questions. Philippe Aguillon.
Alors sur le CICE, j'ai répondu, je vous ai dit au-dessus de 1,6 SMIG, voilà, on peut réduire. Donc là, je vais un peu dans votre sens, mais je pense que le CICE était en partie très utile. Donc il faut évaluer la partie utile, la partie moins utile. Sur l'ISF ou sur d'autres impôts, je crois qu'il y a encore des études à faire, voilà. Moi, je dirige un centre de recherche au Collège de France et on est en train de faire des études. On a des données maintenant qui permettent de regarder très précisément l'effet de différentes réformes fiscales sur les individus et sur la mobilité ou sur les revenus qu'ils génèrent. Et je dois dire, je suis au milieu de ces études-là, je ne peux pas encore vous répondre.
Donc
parce que je suis quelqu'un de sérieux et j'attends d'avoir des résultats sérieux avant de pouvoir dire quelque chose.
Philippe Aguillon, vous êtes très prudent sur le ruissellement. C'est ça qu'on veut savoir.
Le ruissellement, c'est autre chose. Je ne crois pas dans la théorie du ruissellement.
Oui.
Non. La réforme de l'ISF et de la flat tax, l'idée de la réforme, c'était de s'aligner sur les autres pays occidentaux, y compris les pays scandinaves. Moi, vous savez, mon modèle, vous le savez, c'est le pays, c'est des pays très égalitaires, qui sont les pays les plus égalitaires au monde, qui sont les pays scandinaves. Vous n'avez pas d'ISF et vous avez la flat tax en Suède, en Danemark,
sur
etc.
Le capital, oui.
D'accord. Donc moi, l'idée, c'était de m'aligner, mais il y avait pour moi, en même temps, des niches fiscales, et en même temps, et je ne crois pas dans la théorie du ruissellement, je ne crois pas à l'idée de dire on enrichit les plus riches et ça tombe automatiquement. Je pense qu'en même temps, il faut pousser en bas. Et il faut pousser avec formation, éducation, santé, services publics de qualité, s'assurer que les que personne n'est exclu, que les gens sont retournent au marché du travail. Donc je ne crois pas du tout au ruissellement. Mmh. Je crois dans l'idée qu'il faut, évidemment, ceux qui innovent doivent être récompensés pour l'innovation, mais en même temps, il faut pousser par en bas à travers toutes ces politiques sociales.
Une question sur les retraités, là. Le gouvernement a déjà corrigé deux fois sa politique qui concerne les retraités. En septembre et en décembre, il s'agissait d'alléger le poids de la CSG qui avait été alourdi. Aujourd'hui, une des pistes les plus sérieuses, c'est de réindexer les petites pensions sur l'inflation. Et ça serait la troisième correction. Est-ce que ça veut dire que sur ce dossier-là, il y a eu de grosses erreurs de commises?
Ils ont merdé. D'accord. J'ai un mot un peu vulgaire, mais je veux dire, il fallait pas commencer par désindexer, quoi. Voilà. Je pense que c'était une erreur. J'ai toujours pensé, j'ai jamais compris cette, donc évidemment, l'erreur, bah, on la corrige après, quoi.
Vous n'avez pas compris la désindexation? Vous n'avez pas compris la désindexation? Ça fait gagner de l'argent.
Oui, mais c'était d'une manière, vous voyez, beaucoup de retraités se sont sentis, ils n'avaient pas le choix, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ils étaient pris en otage, quoi, quelque part. Et on se disait, je crois que le raisonnement, c'est que les retraités, ça descend pas dans la rue. Ben, ils sont descendus dans la rue, vous voyez. Evelyne, je crois qu'il y avait un mauvais calcul, là.
Evelyne est au standard. Bonjour, Evelyne.
Bonjour.
Bienvenue.
Je suis retraitée. Je fais partie des 20% qui continuent à payer la taxe d'habitation. Je suis tout à fait d'accord pour payer des impôts à condition qu'ils ne soient pas iniques. Comment va être calculée la taxe foncière? Sera-t-elle encore assise sur la valeur locative qui est aberrante car elle date de plus de 40 ans?
Merci Evelyne pour cette question. Philippe Aguillon vous répond.
Oui, bah écoutez, j'espère que ce qui va être annoncé ce soir ou dans les mois qui viennent vont vous donner satisfaction. Je pense, comme vous, que l'impôt doit être juste et qu'il faut permettre. Et je crois qu'on a sous-estimé aussi le fait que beaucoup de gens qui touchent des retraites, il y a des gens qui dépendent d'eux. Et qu'ils font vivre des familles aussi, qu'ils aident des familles, qu'ils soutiennent des membres. Je crois que cet aspect-là a été très sous-estimé quand il y a eu la désindexation. Je crois que c'est une des choses qui n'a pas été compris. Mm-hmm. Voyez, donc je compatis complètement à ce que vous ressentez et j'espère que réponse sera donnée à vos préoccupations.
Philippe Aguillon, selon Le Parisien ce matin, l'État souhaite ramener, je parle d'EDF, l'État souhaite ramener le nucléaire dans le giron public en totalité en le renationalisant. Quel est l'intérêt? Pourquoi? Est-ce que c'est considéré qu'il y va de la souveraineté énergétique de la France?
Écoutez, je n'ai pas une religion là-dessus. Je n'ai pas vraiment. Moi, disons que je m'intéresse beaucoup à la transition énergétique. Et je pense que c'est important de garder du nucléaire pendant un certain temps, mais de préparer le passage aux énergies renouvelables. Donc sur ce débat-là, je pense que par rapport à la stratégie allemande, la stratégie française est une bonne stratégie de dire on y va progressivement et on passe pas, puisque l'Allemagne finalement en disant pas de nucléaire, ils se mettent à utiliser beaucoup le charbon. Donc ça, je pense que ce choix-là est un bon choix. Maintenant, est-ce que vous confiez ça au privé ou au public? Là, je crois que c'est une question, voilà, délicate. Je saurais pas vous dire, dans ce cas-là, si c'est vraiment une bonne idée de le transmettre. Puis on peut dire, c'est stratégique. Et comme c'est stratégique, je le confie plutôt au public. Mais je n'ai pas vraiment sur cette question de religion.
Une question via l'application France Inter. Dominique, que les politiques viennent travailler un mois sur les chantiers, nous voudrons plus toucher à l'âge de départ à la retraite, ils sont déconnectés, nous tenons à notre service public, dit Dominique. Réaction à cette interpellation, Dominique Aguillon, Philippe Aguillon, pardon.
Oui, donc moi je pense que si vous voulez, je pense si vous voulez sur l'histoire de l'âge de la retraite, je pense que agir par l'âge de la retraite c'est injuste. Pourquoi? Parce que augmenter l'âge de la retraite, c'est en fait ça veut dire que des gens qui ont des travaux pénibles et à espérance de vie faible et qui ont commencé tôt subventionnent des gens qui ont des travaux moins pénibles et qui espérance de vie plus élevée et qui commencent plus tard. Voilà. Donc chaque fois que vous augmentez l'âge minimum de la retraite, c'est une injustice qui s'augmente. Vous voyez, tel que c'est comme ça. L'avantage du système à points, c'est que dans le système à points, vous pouvez tenir compte de l'âge de départ, puisque c'est des points qu'on accumule, et les points peuvent tenir compte de la pénibilité du travail. C'est une manière beaucoup plus juste d'allonger le système à points. Vous voyez, vous indexez ce que vous donnez sur la croissance de moyen terme et sur la démographie. C'est ce que font les Suédois. Mais c'est fait de manière beaucoup plus juste. Dire simplement, j'augmente l'âge minimum de départ à la retraite, c'est exactement que les gens défavorisés et à espérance de les plus faibles subventionnent encore plus les autres. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas.
Eh bien, c'était un Philippe Aguillon en proie au doute qui était ce matin au micro de France Inter.
Mais j'ai pas de doute sur ce qu'il faut faire et j'espère vraiment que le président.
Mais de doute sur ce qui a été fait.
Parce que le programme du président est un bon programme et l'esprit du programme.
Vous l'avez écrit en même temps.
Et voilà, je suis très biaisé. Et j'espère qu'on restera fidèle à l'esprit de ce programme-là.
Eh bien, on verra ça ce soir et cette semaine. Merci beaucoup, monsieur le professeur au Collège de France, d'avoir été au micro d'Inter.